toutes et à tous, vous écoutez l'Info Club Sandwich du jeudi 19 juin 2025, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Vous êtes bien sur Radio Campus Amiens 87.7 FM et DAB+, et vous pouvez aussi nous retrouver sur radiocampusamiens.fr. Deuxième émission en extérieur de l'année, mais la première chez nous à Campus, puisqu'une émission avait été enregistrée à la Comédie de Picardie en mars. Autour de la table aujourd'hui, comme toujours, une très belle équipe. Déjà, je suis avec Sonia. Salut, comment tu vas ?
Salut, ça va bien et toi ?
Ça va très bien. Tu reçois William Tessier, chargé de communication au Ciné Saint-Leu. Tu lui poseras quelques questions dans un instant. Je suis aussi avec Thomas. Comment tu vas, mon Thomas ?
Écoute, mieux que jamais.
Parfait. Tu nous fais les actus du jour. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Alors, je vais parler de la déjà bicentenaire foire de Saint-Jean qui revient. Je vais parler d'une exposition, celle de Virginie Sueur. Et ensuite, on va parler un petit peu du cirque Jules Verne et d'une visite.
Très bien, on écoute ça tout à l'heure. Et je suis enfin avec Inès à la technique. En deuxième partie d'émission, avec les actus, on s'écoutera une chronique de Candice. Mais pour l'instant, Sonia, je te laisse la parole avec ton invité.
Merci. Alors aujourd'hui, je reçois William Tessier du Ciné Saint-Louis. Donc, bonjour William.
Bonjour.
Comment ça va ?
Écoute, ça va, on est à l'extérieur, il fait beau, donc moi ça va nickel.
Donc tu viens nous présenter, enfin on va parler plutôt de la programmation du Ciné Saint-Louis du 18 juin au 15 juillet. Il y a pas mal de choses qui sont proposées, des adaptations, des courts-métrages, des longs-métrages, des animations. On va commencer tout de suite avec le film The Phoenician Scheme de Wes Anderson, sélectionné au Festival de Cannes 2025. Est-ce que tu peux me le présenter ?
Oui, alors c'est les dernières journées, la dernière semaine pour découvrir le nouveau film de Wes Anderson. On avait même, du coup, en amont de ça, fait toute une rétro au mois d'avril pour pouvoir présenter tout Wes Anderson. Celui-ci, c'est son dernier, présenté en compétition à Cannes, que moi, personnellement, je trouve très fort, très beau. C'est pour ceux qui avaient peut-être été un peu déçus par The French Dispatch ou même Asteroid City, je trouve que là, il essaye des nouvelles choses, il n'est pas forcément dans des zones de confort. Et en fait, on va suivre un personnage joué par Benicio Del Toro qui veut passer la main, qui va renouer avec sa première fille devenue religieuse et qui va essayer de monter une dernière tractation industrielle avant de passer la main, et on va suivre comme ça ces personnages-là à la rencontre d'autres. Ça ressemble beaucoup à du Tintin dans l'esprit, c'est en ça que c'est un peu nouveau dans le cinéma de Wes Anderson, même s'il garde ses tics qu'on lui connaît d'esthétique et de narration. Ça parle forcément de parentalité, comme l'intégralité de l'œuvre de Wes Anderson, mais il y a quelque chose de nouveau, et même par moments on frise le film d'horreur, le film de genre, et ça c'est aussi intéressant, il n'a jamais été sur ce terrain-là. Et toute la séquence d'intro est assez forte, donc moi je vous le conseille vraiment vraiment, même si les derniers ont pu vous décevoir, celui-ci a assez de renouveau je pense pour au moins intriguer.
Ok, ensuite on a le coup de cœur du mois, Amélie et la métaphysique des tubes. C'est une adaptation de la célèbre écrivaine Amélie Nothomb, de son roman Métaphysique des tubes paru en 2000. Il a été sélectionné au Festival de Cannes 2025, est-ce que tu peux me le présenter ?
Oui, alors du coup, comme tu as dit, c'est adapté d'un livre d'Amélie Nothomb, un livre qui plus est autobiographique, puisqu'elle a vécu étant jeune au Japon, et en fait, voilà, elle va vous narrer cette expérience de vie, entre guillemets, au Japon, à l'âge en plus qu'elle avait à l'époque, donc 7 ans. C'est un film d'animation qui est très beau. Alors, qui dit film d'animation, nous, c'est une chose avec laquelle on se bat, entre guillemets, un peu au Ciné Saint-Leu, c'est que l'animation n'est pas que pour les enfants. Vous avez le droit de venir voir Amélie, même si vous n'avez pas de neveu, nièce, enfant avec vous. C'est aussi quelque chose à apprécier en tant qu'adulte, même si on conseille le film quand même à partir de 7 ans. C'est vraiment pour finalement une tranche d'âge assez large. Et c'est surtout très très beau, ça a reçu juste ce week-end, là, tout récemment, le prix du public au Festival d'Annecy, qui est quand même la grande messe du cinéma d'animation au monde, c'est le plus gros festival d'animation au monde. Donc voilà, un film qui est primé dans ce genre de festival, c'est pas rien. Et voilà, donc que vous soyez amoureux d'Amélie Nothomb ou pas, que vous aimez l'animation ou pas, que vous soyez sensible à son écriture ou à cet univers-là, c'est assez singulier. Et surtout, l'animation est vraiment signée par deux personnes. Donc c'est un réalisateur et une réalisatrice qui co-signent le film et qui se sont fait la main sur des films, notamment comme Tout en haut du monde ou Calamity, qui étaient des films français mis en scène par Rémi Chaillet. En fait, les personnes se sont rencontrées sur ces productions-là et ont décidé de travailler ensemble. Donc c'est un premier long-métrage qui plus est. Et c'est assez fort pour un premier long métrage, donc voilà, c'est toujours quelque chose qu'on encourage à venir découvrir.
Ok, j'ai vu aussi qu'il y avait une trilogie, la trilogie d'Oslo, avec Amour, Rêve, Désir, de, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Dag Johan.
Tu ne serais pas risqué, mais vas-y.
Donc Rêve a été sélectionné au Festival de Berlin en 2025. Amour a été sélectionné au Festival de Venise en 2024 et le dernier, Désir, a été sélectionné au Festival de Berlin 2024. Est-ce que tu peux me présenter cette trilogie ?
Alors oui et non, parce qu'en fait je ne les ai pas vus, c'est une programmation qu'on a pour le prochain programme, en fait ils sont annoncés mais pour les prochainement. Donc moi je ne les ai pas vus, mais je sais que le directeur Boris Thomas les a vus et c'est une trilogie, donc du coup vous pouvez voir les films de manière séparée, ça va parler de relations, de couples. Les films sont assez courts aussi, donc ça permet de ne pas avoir une trilogie trop indigeste. Mais c'est vraiment trois films qui ont été pensés comme trois chapitres. Donc on vous invite bien sûr à aller voir les trois, même si encore une fois, vous pouvez les voir de manière séparée. Peut-être pas forcément dans le désordre pour autant. Mais voilà, on a très hâte de vous les montrer. Ce sera un peu plus tard cet été.
Ok. Et aussi le film Lovable, de... Je vais pas tenter... pour le nom de
Lovable,
ouais. La réalisatrice. Elle a reçu, enfin, le film a reçu un grand prix du jury 2024 au Film Festival Les Arcs. Il a aussi reçu un prix d'interprétation féminine au Festival International du Film de Carlo Vivari. Est-ce que tu peux aussi me le présenter ?
Oui, alors typiquement, c'est du film européen comme on les aime. Donc là, c'est un film norvégien, mi-norvégien, mi-danois, qui s'inspire énormément de grands films sur le couple, puisqu'en fait, on va du coup suivre un couple dont le mari va annoncer qu'il souhaite divorcer. Donc vraiment ce que ça questionne au sein d'un couple, au sein d'une intimité, au sein aussi d'une histoire qui dure depuis longtemps. Et la réalisatrice, donc, qui à la fois scénarise, réalise, elle monte également, enfin c'est vraiment une touche à tout sur son film, elle dirige plein de postes, va énormément s'inspirer par exemple de grands grands classiques que sont les films de Bergman, Scènes de la vie conjugale, qui sont vraiment un film somme entre guillemets quand il est question du couple et de ce qui va pas chez un couple souvent. Mais c'est aussi... étonnamment et avec c'est assez frais en fait comme film, c'est pas forcément plombant, c'est là où le film nous a vraiment touché et qu'il a su toucher tout plein de festivals puisque comme tu l'as annoncé il a reçu tout plein de prix, ce qui est toujours aussi bon signe hein, quand la profession et le public donnent des prix à des films, c'est jamais au hasard. Donc voilà, c'est vraiment un film qui en plus est parfait pour l'été je trouve et qu'on vous conseille vivement.
Ok, merci. Plusieurs événements sont prévus dans ce programme. Déjà avec le court-métrage Drums Collection de Laurette Freitel qui sera projeté en séance gratuite le lundi 23 juin. Est-ce que tu peux me présenter ce court-métrage et m'en dire un peu plus sur cette séance ?
Alors du coup c'est un court-métrage, elle le présente même comme un court-métrage musical, un clip musical autour de la batterie qui en fait a été mené sur différents territoires dont celui d'Amiens. Il y a vraiment des choses qui ont été tournées à Amiens, donc c'est pour ça que nous dès qu'il y a un impact local, c'est des films qu'on aime montrer et surtout en fait ça a été fait en collaboration avec les élèves du Diapason. Donc voilà, c'est un court-métrage de 15 minutes. Laurette Freitel, la réalisatrice, sera là pour discuter à l'issue de la projection, ce qui est aussi toujours nous une plus-value. On aime vraiment encore plus quand c'est des films comme ça, des courts-métrages locaux, les accompagner par les équipes qui sont les mieux placées pour en parler. Il y aura sûrement également des élèves du Diapason. Et c'est toujours des moments, en plus voilà, on sera deux jours après la fête de la musique, donc on pourra un peu prolonger la musique et le cinéma, entre guillemets, le lundi 23 juin à 19h. Et donc voilà, comme tu l'as dit, c'est un événement qui est gratuit.
Ok, donc on pourra discuter avec la réalisatrice à la fin du film.
Okay. Il y aura un temps d'échange, et j'imagine aussi avec les élèves du Diapason qui seront sûrement là pour aussi échanger et voir le film. Je ne suis pas certain qu'ils l'ont tous vu. Donc c'est aussi super valorisant, je trouve, quand il y a des différentes personnes, même des classes, des élèves qui ont travaillé. C'est important pour eux de le voir en salle, dans des conditions, et pas juste projeté dans une salle de cours ou dans un amphithéâtre, parce qu'ils font un travail professionnel. Donc du coup, leur offrir une restitution professionnelle, c'est d'autant plus gratifiant. Et nous, c'est vraiment une des missions qu'on a à cœur au CinéSol.
Ok. C'est bientôt l'été et pour le début de la saison, la programmation propose un rétro de l'été. L'année dernière, c'était des films de Walt Disney, si je ne me trompe pas, à cette période de l'année. Cette année, c'est des films du studio Ghibli. Pourquoi le studio Ghibli pour cette année ?
Alors, du coup, on avait inauguré en 2021 la rétro de l'été avec Miyazaki Natsu, donc, qui veut dire l'été Miyazaki en japonais, où on avait vraiment montré donc, des films du studio Ghibli, mais uniquement réalisés par Miyazaki. On avait fait ensuite Hardman, Nautilus Express et comme tu l'as dit, Walt Disney l'année dernière. Et puis Ghibli, c'est quand même une production vaste, riche, variée. Il y a tout plein de films qu'on n'avait du coup pas montrés en 2021. Et donc cette année, on vous propose l'autre Ghibli, sous-entendu le Ghibli qui n'est pas de Miyazaki, mais il y a tout plein de talents à découvrir ou redécouvrir, notamment Isao Takahata, qui est quand même, mine de rien, le cofondateur du studio Ghibli avec Miyazaki, grand collaborateur, qui se connaissait déjà même avant d'avoir créé Ghibli ensemble, qui a notamment réalisé, par exemple, Le Conte de la Princesse Kaguya, Pompoko... Aussi malheureusement, alors ça on s'en excuse, le tombeau des Lucioles, mais qu'on ne peut pas projeter pour des raisons qui ne sont pas... enfin, on y est malheureusement pour rien, le film n'est pas disponible cet été pour des diffusions de salle. Sinon on aurait adoré vous voir tous pleurer en salle pour revoir le tombeau des Lucioles, nous les premiers. Mais voilà, donc ça c'est le seul manque entre guillemets de cette rétro. Mais après il y en a pour tous les âges, même des choses comme Panda Petit Panda, qui est pour le coup un film de Takahata scénarisé avec Miyazaki, qui sont en fait deux moyens-métrages qu'on conseille à partir de 4 ans, qui sont vraiment pour les tout petits, ça dure à peine une heure. Et puis à côté de ça, des films plus adultes, je pense à Souvenir de Marnie qui sera en fin d'été, même La Tortue Rouge, qui est un film européen mais produit par Ghibli, réalisé par un Belge. Sur le papier c'est un peu Camoulox, on se dit que c'est pas un film Ghibli et pourtant si. Et puis donc, vous verrez, il y a 12 films à découvrir chaque semaine, un par semaine durant cet été. Et on terminera par Marie et la Fleur de la Sorcière. Là on triche, on est vraiment dans l'autre Ghibli, puisqu'en fait c'est pas un film du studio Ghibli, c'est un film du studio Ponoc. Mais en fait le studio Ponoc a été créé par des talents de Ghibli qui à un moment donné, il y a eu un petit creux chez Ghibli en 2014, ils savaient pas trop, ils parlaient de restructuration, ils ont pas fait de film pendant quasiment 6 ans, mis à part La Tortue Rouge qui avait été fait en Europe. Et donc du coup il y a plein de gens qui ont un peu quitté le navire parce qu'il se passait pas grand chose et qui ont créé studio Ponoc, dont Yone Bayashi qui a quand même réalisé Arrietty. Le nom m'échappe, un autre film chez Ghibli, et qui va avec ses copains créer Ponoc et du coup créer ce premier film qui est Marie et la Fleur de la Sorcière. Et on trouvait ça sympa de aussi terminer cette rétro avec un film pour le coup qui est vraiment l'autre Ghibli, puisque ça, studio Ponoc peuvent être vus un peu comme les héritiers de Ghibli, à voir ce qu'ils feront dans l'avenir, mais en tout cas voilà, c'est bien parti pour être un peu des héritiers.
Ok, est-ce que tu peux me présenter ce film?
Alors Marie la Fleur de la Sorcière, c'est vraiment un film qui ressemble beaucoup à plein de productions Ghibli, Kiki la petite sorcière en premier lieu, où en fait une jeune fille va rêver d'aventure, va vraiment non pas être mal dans sa peau, mais voilà, un peu tourner en rond dans sa vie, elle va pas comprendre ce qui se passe autour d'elle et tout d'un coup tombe sur un balai, le balai d'une sorcière, qui va l'emmener dans un monde au-dessus des nuages. Et elle va se découvrir en fait sorcière et du coup va se poser la question de l'identité, de ce qu'on veut vraiment être, la notion de bien et de mal aussi à comment dire, chez les enfants, parce que le film est à partir de 7 ans si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça questionne aussi la notion de bien et de mal, et d'institution, et de est-ce que toutes les règles sont bonnes à respecter, est-ce que quand elles sont injustes justement faut pas un peu aller à l'encontre des règles. C'est toutes des questions qui vont être posées à Marie et elle va vivre cette aventure là. Et si vous aimez Kiki la petite sorcière, si vous aimez même Le Château dans le ciel, on est vraiment dans cet univers là et c'est un film qui est en plus de ça très beau comme la plupart des Ghibli.
Ok, y a un autre événement, la séance du Ciné Club du mardi 8 juillet à 20h45 avec le film Le Magnifique de Philippe de Broca, qui sera animé par les étudiants et étudiantes ambassadeurs et ambassadrices du Ciné Saint-Leu. Est-ce que tu peux m'en dire plus déjà sur le film et qu'est-ce qui est prévu par les étudiants et étudiantes?
C'est du coup la troisième séance. En fait, il y a un petit noyau d'étudiants et étudiantes qui a proposé un ciné-club autour des films de leur enfance. Ils ont commencé avec Le Magicien d'Oz en avril. Là, il n'y a même pas quelques jours, on a projeté Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Et donc là, la troisième séance, ils ont choisi. C'est vraiment eux qui choisissent les films et qui... Après, nous, on vérifie juste que c'est disponible et qu'on peut le faire, mais c'est vraiment des choix qui leur sont propres et personnels. Et là, en l'occurrence, Lynn qui animera cette séance, Le Magnifique, c'est un film qu'elle a vu enfant avec son père et qu'elle a regardé comme on fait tous quand on est enfant. On use les VHS, les DVD jusqu'à n'en plus pouvoir. Et donc, c'est vraiment des séances qui sont chouettes parce que c'est des séances qui leur tiennent à cœur. Du coup, ils vont présenter le film en avant-séance, vous raconter pourquoi c'est important pour eux et aussi vous recontextualiser le film. Le Magnifique, c'est vraiment un film de Philippe de Broca. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Philippe de Broca, c'est un grand scénariste, un grand réalisateur pardon, du cinéma français des années 60, qui travaille énormément avec Belmondo. Il a déjà fait L'Homme de Rio, qui est super. C'est pareil, si jamais vous aimez Tintin, L'Homme de Rio, c'est super. Et juste après ça, ils font Le Magnifique, où en fait, on va suivre un écrivain qui écrit des romans un peu érotiques, entre guillemets, une sorte de OSS, mais un peu cul, quoi. Pour adultes, mais sans être cru, mais enfin voilà, comme ça se faisait pour beaucoup à l'époque, dans les années 70, et qui en fait s'ennuie énormément dans ce style d'écriture. Et ce qui est intéressant, c'est que le film propose de voir et de vivre ce que raconte le livre. Donc en fait, il y a deux temps, il y a vraiment le temps réel avec cet écrivain, en plus mal rasé, en peignoir, et cet alter ego qui se crée dans sa fiction, qui lui est très bien rasé, qui a toujours des très belles femmes autour de lui, qui sait se battre, qui vit des aventures. Et donc le film joue beaucoup sur cet aller-retour entre l'histoire réelle et l'histoire fictionnelle. C'est très drôle. Pour le coup, c'est peut-être le moins familial des Belmondo. On vous conseille de ne pas venir non plus avec des enfants de 6, 7, 8 ans. Peut-être qu'à partir de 10 déjà, ce sera très bien. On n'est pas sur du Belmondo family friendly. Mais voilà, donc ça, c'est des séances qui sont super chouettes. Et normalement, il y en aura sûrement une dernière au mois d'août. Donc ça fera 4 ciné-clubs animés par les étudiants et étudiantes qui sont en train de réfléchir à ce dernier film. Mais voilà, ce sera quelque chose d'assez fort. Et surtout, en fait, ça a lieu dans le cadre de Mon Défi Cinéma, qui est un appel qui a été créé par l'ACAP à Amiens et par le CNC de manière plus nationale. Et qui est, j'en parle parce qu'en fait, c'est renouvelé en ce moment. L'appel à la candidature est ouvert jusqu'au 1er octobre. Donc s'il y a des gens entre 18 et 25 ans qui ont envie de monter des petits groupes et qui ont des envies de proposition de cinéma, nous, on est prêts à les accueillir. Donc il y a toutes les informations sur le site de l'ACAP. Et vous pouvez candidater avec un projet comme celui-ci, par exemple, mais vous pouvez imaginer complètement autre chose. Il y a tout plein de choses qui sont faites dans différentes villes. Mais voilà, ça, le Ciné-Club, les films de notre enfance, en fait, est le résultat de cet appel à projet, qui est encore une fois renouvelé jusqu'au 1er octobre pour l'année prochaine.
Ok. Donc, parmi tous ces films, il y en a un qui a attiré mon attention, c'est Le Rendez-vous de l'été de Valentine Kadic. Est-ce que tu peux me le présenter ?
Oui, alors ça, pareil, dernière séance, il faut, si jamais vous voulez le voir, il faut se ruer au Ciné-Saint-Leu avant le 24 juin. C'est un film très solaire, très doux, qui en fait va suivre un personnage principal qui quitte sa province pour aller à Paris l'été des JO, parce qu'elle est fan hardcore d'une nageuse, qu'elle a réussi à avoir des places, et qu'en plus de ça, sa demi-sœur, qu'elle n'a pas vue depuis des années, habite à Paris et qu'elle se dit qu'en plus de rencontrer sa nageuse et de voir des épreuves de Jeux Olympiques, elle va pouvoir renouer un peu avec sa sœur. Je ne vous en dis pas plus parce que le film fait 1h16 et vraiment là, je vous ai déjà raconté les 15 premières minutes. Donc je vous laisse l'autre heure pour vous. Mais du coup, on va suivre ce personnage qui certains pourraient qualifier naïf, mais je pense qu'elle est juste gentille, mais qu'on n'est plus habitué à des gens qui sont si gentils de manière naturelle et franche, et qui en fait va se faire recaler des JO, qui va se faire accueillir mais plus ou moins bien par sa demi-sœur qu'elle a pas vu depuis 10 ans, et qui va essayer juste de voir le positif dans ce qui lui arrive. Et c'est presque un road movie, parce que du coup elle va errer dans Paris durant plusieurs jours, Paris en plus filmé de manière très solaire avec cette charte graphique des JO très bleu, pastel, violet, qui donne aussi une image au film comme ça, très colorée et très douce. Et l'actrice principale est super. On a reçu la réalisatrice il n'y a pas longtemps pour une avant-première, elle est venue à la rencontre du public, et quand elle parlait de l'actrice, elle nous disait qu'en fait elle n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie, donc il y a un vrai travail de composition, parce que quand on la voit à l'écran, on pourrait croire qu'elle est un peu peinture nature, alors que pas du tout, apparemment c'est même l'opposé de son personnage, mais c'est d'autant plus bluffant quand on la voit à l'écran. Et nous, on s'est vraiment laissé prendre par cette histoire là et on vous invite vraiment à le voir. En plus, vraiment, la durée fait que vous n'allez pas non plus venir une demi-journée au Ciné-Saint-Leu pour le voir. On a la climatisation, donc pendant 1h07, vous serez au frais. Donc voilà, choisissez le temps le plus chaud de la journée. Il y a des séances à 14h, là, typiquement. Et venez profiter d'une heure 17 de clim, avec en plus de ça un super film.
Ok, ça me donne encore plus envie d'aller le voir.
Trop bien.
Pour finir, ton coup de cœur de ce programme et pourquoi ?
Mon coup de cœur, bonne question. Ah si, alors moi j'ai un coup de cœur, mais qui est lié. J'ai un petit garçon et du coup il a très hâte de voir Shaun le Mouton, La Ferme en Folie, qu'on propose durant le cadre du Little Film Festival tous les mardis, là jusqu'au donc du 8 juillet jusqu'au 26-28 août, je sais plus, qui est un mardi également. Il y aura une proposition d'un film plutôt pour les petits. On est sur des films à partir de 3-4 ans, sur des durées aussi très courtes. On est souvent sur des programmes de court-métrage ou de moyen-métrage, donc ça dépasse rarement 1h10. Et donc là, du coup, nouveau programme de Shaun le Mouton, La Ferme en Folie, avec, si je ne dis pas de bêtises, 3 courts-métrages du studio Hardman, avec de l'animation en volume, en pâte à modeler, que je crois qu'on ne présente plus, qui ont vraiment un charme fou, et qui sont toujours chouettes, je trouve, à revoir en salle, même si parfois les épisodes sont en ligne sur Roku, ou qu'on a pu les voir d'une autre manière. La sensation d'avoir des enfants qui rient en salle vous offre une autre perception du film, et ça j'en suis persuadé. Et parfois même des films qu'on peut penser en tant qu'adulte pas ouf, on se surprend à davantage les apprécier, à les voir en communauté avec des enfants qui rigolent à des choses qui nous font peut-être sourire mais pas aux éclats. Et quand vous entendez 50, 60, 80 enfants rire mais vraiment à gorge déployée, ça donne vraiment une autre perspective du film. Et pour ça, ces séances-là sont chouettes à vivre en famille. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir Shaun le Mouton, La Ferme en Folie. Qui est en plus une avant-première, parce que je crois que le programme sort vraiment qu'en octobre. Donc là, voilà, c'est une occasion unique de le voir en amont, avant tout le monde.
Ok, on ira voir Shaun le Mouton en avant-première. Est-ce que d'autres événements sont prévus en dehors des projections ?
Non, là c'est l'été, du coup je vous avoue, non pas qu'on prend des vacances, mais qu'on reste ouvert tout l'été, mais que voilà, l'animation se calme un peu, même si on a encore beaucoup de rétro et de festivals. Okano Ghibli va nous occuper, donc l'autre Ghibli va nous occuper tout l'été, pareil du Little Film Festival. Il se peut, on est en train de réfléchir, d'ailleurs tiens, dites-nous sur nos réseaux sociaux si jamais vous aimez ces choses-là, parce qu'on est en train de se questionner. Normalement au mois d'août on fait les immanquables, donc en fait pendant une semaine, deux semaines, on vous propose les films qui ont marqué l'année scolaire écoulée. Donc là on est en pleine programmation, en plein questionnement, donc si jamais c'est un rendez-vous qui vous plaît et que vous attendez, dites-le nous, parce que voilà, on est en train de jauger s'il y a un intérêt ou pas à le proposer. Et puis après, il y aura la rentrée et tout plein d'autres films qu'on a vus en festival, qu'on découvre là en ce moment et qu'on a hâte de vous montrer. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On a également aussi une application depuis quelques mois, donc qui vous permet d'avoir toute la programmation sur iOS ou Android, qui est une application gratuite, qui vous permet même de réserver du coup vos places directement depuis votre application. Donc voilà. Et puis, nous, on est quand même sur un programme mensuel, donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et puis on annoncera les événements un peu mensuellement.
Ok, bah merci beaucoup William d'avoir répondu à mes questions. Avant de continuer l'émission, on se fait une petite pause musicale avec Keystone de Smack Dub. One time I'm old, yes, we leave a day like this. Everything in its right place. Today's one of these days. One time or more, yes, we live a day like this. Everything in its right place. Today's one of these days. One time or more, yes, we live a day like this. Everything in its right place. Today's one of up and you feel so strong. This is your shot. Trouble make a stand around. No man, I can do no wrong. First bit on the ground for it. Run through the city, run through the deep, run through the country, run to life ahead, run to infinity. Different what you're living in. Race for what's coming next. Embrace it and you're craving it. No better than to be gripping. Crash test the jumping in. The last step is living it. All the thing you're fading with are waiting there to be taken. Pick it up and it's your time. I used to feel a future out of range. Oh. Future is now, don't ask me how. No more is so rough, we live it more. Smiling is the keystone, do not hear no more. Here it's always warm and calm, yeah, yeah, yeah. Shine by your presence, you can have all your independence. So enjoy the silence, you wanna think about the bell. We can talk without any sense, or about science. Even if we don't agree about the reason that we do so.
De retour sur Radio Campus Amiens dans l'info Club Sandwich. Et je pense honnêtement que Keystone, c'était le meilleur mood pour une émission dehors sous 25 degrés. Avant d'écouter Thomas pour les actualités du jour, Candice nous parle de Taylor Swift et de son impact dans l'industrie musicale.
Il y a quelques semaines, Taylor Swift a racheté les droits de ses 6 premiers albums. En voyant ça, je me suis demandé comment l'industrie de la musique fonctionne et pourquoi elle laisse si peu de place à l'artiste. Mais tout d'abord, mettons-nous dans le contexte. Taylor Swift est une autrice, compositrice, interprète, née en 1989 aux États-Unis. Elle lance sa carrière à seulement 16 ans en 2006. Son premier album est un grand succès aux États-Unis, mais il faudra attendre 2014 et son album 1989 pour que Taylor Swift atteigne la notoriété qu'on les connaît aujourd'hui. Mais pour en arriver là, Taylor Swift a mené beaucoup de batailles qui ont marqué l'histoire de la musique. Tout commence en 2006, alors qu'elle lance sa carrière musicale. Taylor Swift rend son contrat avec Sony pour chanter ses propres chansons. Ce contrat était un contrat d'édition musicale, c'est-à-dire que l'auteur transfère son droit d'auteur d'une composition à un éditeur. En contrepartie, l'auteur reçoit une partie de ses revenus de l'utilisation de sa composition. 8 ans plus tard, alors que sa renommée n'est plus à faire, elle demande à ce qu'on retire l'intégralité de ses albums des plateformes de streaming, comme Spotify ou Deezer, les accusant de sous-payer les artistes. Pour une chanson écoutée, les artistes étaient payés entre 0,066 € et 0,0084 €. Ces chansons ne pouvaient plus être écoutées pendant 3 ans et demi, car elle estime qu'il ne faut pas dévaluer le travail des chanteurs. En 2019, alors qu'elle souhaitait racheter les droits de ses premiers albums, son label Big Machine est racheté 300 millions de dollars, soit 252 millions d'euros, par une figure emblématique de l'industrie musicale, l'investisseur et manager Scott Urban. Taylor Swift avait signé un contrat avec Big Machine qui lui donnait la propriété des masters de ses 6 premiers albums en échange d'avances de fonds. Les masters correspondent à tous les droits rachetés à un enregistrement sonore qui permettent de contrôler la manière dont cet enregistrement est utilisé. Ça inclut le droit de l'interpréter, de la distribuer ou encore de la rémunérer. L'artiste essaye alors de racheter les droits de ses albums, mais en vain. Alors, elle décide de réenregistrer 6 de ses albums, ce qu'elle a légalement le droit de faire. Les labels, de peur que leur artiste fasse la même chose, changent les contrats de leur artiste pour leur donner plus de droits. Grâce au combat mené par Taylor Swift, les artistes ont obtenu plus de droits et ne sont plus sous-payés sur les plateformes de streaming.
On remercie Candice pour cette chronique très intéressante et Taylor Swift pour les sous-sous des artistes. Et maintenant, Thomas, c'est à toi. Dis-nous ce qu'il y a à faire en ce moment dans les parages.
Eh bien, mon petit Malo, plein de choses. Tout d'abord, le samedi 21 juin, c'est déjà le retour de la foire Saint-Jean. Et oui, comme tous les étés, la foire qui a attiré 400 000 visiteurs sur une centaine d'attractions différentes fait son grand retour à l'esplanade de la Haute-Oie. Et ce, jusqu'au 14 juillet. Évidemment, la foire ne revient pas seule. Avec elle revient le famoso Ours Noir, restaurant qui saura sans l'ombre d'un doute ravir vos papilles. Toujours ce samedi 21 juin, le cirque Jules Verne vous ouvre ses portes pour une visite. Venez profiter et pour découvrir le cirque comme vous ne l'avez jamais vu. Le bâtiment inauguré en 1880 par le célèbre auteur cache bien ses secrets. À vous de venir les découvrir. Attention, les inscriptions sont obligatoires sur le site du cirque. Amiens Métropole met à l'honneur la photographe Virginie Sueur à l'Office du Tourisme et des Congrès. Il la présente ainsi. Originaire d'Amiens, l'artiste propose une série de clichés à l'ambiance douce et brumeuse, principalement capturés sur les côtes picardes et normandes. À travers une approche intime et documentaire, elle sublime les paysages familiers et les instants du quotidien, évoquant les souvenirs et émotions. Récompensée en 2023 pour son engagement contre les violences intrafamiliales, Virginie Sueur offre ici une vision poétique et profondément humaine du monde qui l'entoure. L'exposition gratuite est visible à l'Office du Tourisme jusqu'au 29 juin. Attention, déjà plus que 10 jours pour en profiter.
Merci mon loulou, merci mon petit Thomas et merci à tous de nous avoir écoutés pour cette info Club Sandwich du jeudi 19 juin 2025. On se retrouve demain à midi et en attendant, on se laisse avec le morceau Crystallized de Gorillaz.
To have me crystallized, and you got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep on this pace to keep you satisfied? Ah,
sounds echoes. Does it lessen your affection? No. Take me over, I've been down.